Chapitre 25, la revanche du veau. Jamais, dit Théophraste dans ses mémoires, qui dès cette époque commence à être empreint d'une immense mélancolie, jamais ma femme ni M. Le Camus ne m'avaient présenté figure pareille à la lecture d'un article de journal. S'il faut s'effrayer de tout ce que racontent les journaux, nous avons de la terreur sur la planche. Ces petits faits diversiers, particulièrement, se plaignent à nous retracer les événements avec une imagination surprenante pour le crime. Il leur faut leur sang quotidien, c'est même risible. Un coup de couteau de plus ou de moins ne leur coûte rien, et à moi ça me fait hausser les épaules. Oui, vraiment, les coups de couteau de messieurs les journalistes ne sauraient troubler la parfaite sérénité de mes digestions, et je le répète, je hausse les épaules. Ma femme, quand je fus arrivé à cet endroit de l'article où Cartouche a déposé le mitron dans le four, laissa échapper un gémissement, comme si ce mitron était son frère, et abandonnant sa chaise, recula peu à peu jusque derrière la desserte, dans le coin de gauche de la salle à manger, quand on entre par le vestibule. Monsieur Le Camus avait une attitude au moins aussi ridicule, mais lui, il fit retraite vers le coin de droite, toujours quand on entre par le vestibule. Il me regardait avec insistance, et ma foi, on leur eût présenté à la foire quelque phénomène comme un mangeur de lapins vivants, qui ne lui soit considéré d'autre sorte. C'en était déplaisant. Je ne leur cachais point que toute cette comédie était indigne des deux êtres de raison et les engageait à reprendre leur place à mes côtés. Mais il n'en fit rien. Alors j'entamais l'histoire de la revanche du veau. Je lus. Monsieur Oudry est boucher sur les boulevards extérieurs. Sa spécialité est la viande de veau. On vient lui acheter du veau à la ronde. Cette renommée s'explique par un fait si exceptionnel que nous n'avons voulu y croire que sur l'affirmation réitérée de M. le commissaire de police Mifroy, lequel a procédé à la première enquête. On sait que tous les bouchers de Paris reçoivent leur viande dans des abattoirs. Il leur est défendu de tuer chez eux. Or, M. Oudry tuait tous les jours un veau à domicile. Mais c'est exact, interrompis-je, c'est absolument exact. Monsieur Oudry me l'a expliqué plusieurs fois, et la confiance qu'il marqua en me mettant dans la confidence de son mystérieux abattoir m'étonna quelque peu. Mais pourquoi me révéla-t-il à moi un fait qui n'était connu que de sa femme, de son petit commis, enfant trouvé, qu'il considérait comme de la famille, et de son beau-frère qui, toutes les nuits, lui apportait le veau? Pourquoi? On ne sait pas. C'était peut-être plus fort que lui. Vous savez bien qu'on n'échappe pas à sa destinée. Moi, je me disais, prenez garde, ça finira par se savoir chez les veaux. J'ai repris ma lecture. Ce veau lui était apporté en silence, chaque nuit, par un sien beau-frère, et comme la petite cour où se trouve son abattoir donne par derrière sur des terrains vagues, nul ne vit jamais chez M. Oudry un veau vivant. Et d'où venait ce veau vivant? L'enquête nous l'apprendra bientôt, car M. le commissaire de police Mifroy est bien décidé à pénétrer tout le mystère de cette épouvantable histoire de veau, qui se rattache hélas, comme on le verra plus loin, à l'histoire vraiment miraculeuse des hauts méfaits du nouveau Cartouche. « Allons bon, interrompis-je, c'est encore Cartouche qui va trinquer dans cette affaire, pauvre Cartouche. » Si M. Oudry tenait tant à tuer lui-même son veau, c'est qu'il avait sa manière, une manière qui donnait toute sa qualité à la viande de veau. « Oui, interrompis-je, il m'assomme pas, parce que quand on assomme, ça marque à la tête. Il coupe la gorge d'un veau d'un seul coup. » Il la coupe, interrompis-je, avec le seigneur. Il énerve la viande et... Au fait, interrompis-je, il faut que je vous explique ce que c'est que le seigneur, et après avoir remué les couverts dans le tiroir de la desserte, je pris le couteau à découper et leur dis que le Seigneur, ainsi nommé parce que c'était avec lui que l'on saignait, était au moins deux fois grand comme le couteau à découper. Je le fis poser, passer sur le nez de Monsieur Le Camus, en lui imprimant un double mouvement pour leur faire comprendre que c'était là le mouvement à éviter. On ne doit point revenir dans la blessure. Même je voulus mettre le couteau de la main de Monsieur Le Camus, mais celui-ci recula encore, tout à fait dans le coin de droite de la salle à manger, quand on entre par le vestibule, et il s'enveloppa dans les rideaux de la fenêtre. Il faisait l'enfant. Hier, de grand matin, Monsieur Oudry s'enferma dans son abattoir, comme tous les jours, avec son veau. Il s'était fait aider de son petit commis pour attacher le veau sur l'étou, sorte de brancard qui est de toute utilité pour ce genre d'opération. Le veau attaché, le petit commis s'occupa à rincer des barriques dans la cour, devant la double porte de l'abattoir que le boucher tient toujours close. Ordinairement, M. Oudry met de 20 à 30 minutes pour tuer son veau, le vider, le blanchir. Ah, le blanchir, interrompis-je, c'est lui décoller le cuir du ventre. Il l'habille pour l'étale. 35 minutes s'écoulèrent et la double porte de l'abattoir ne se rouvrait pas. Le petit commis, qui avait fini de rincer ses barriques, remarqua tout haut quelque étonnement. Souvent, M. Oudry lui criait de venir échauder la tête, gratter les poils et nettoyer les oreilles. Ce jour-là, le patron ne l'appelait pas. Sur ces entrefaites, Mme Oudry, la femme du boucher, se montra sur le seuil de la cour. « Mais qu'est-ce qu'il fait donc ? » dit-elle. « Il n'en finit pas aujourd'hui. »« Mais c'est vrai, madame, il est bien longtemps. » Alors elle appela « Oudry, Oudry !» Pas de réponse. Elle traversa la cour et entr'ouvrit la porte de l'abattoir. Le veau aussitôt s'en échappa et se prit à sauter avec grâce autour d'elle. « Oh, mon Dieu !» interrompit-il. « Oh, mon Dieu, je redoute un grand malheur !» Elle regarda d'abord le veau avec émotion, car à cette heure, le veau devait être mort. Puis elle poussa d'un seul coup la double porte et appela encore son mari, qui ne lui répondit point. Elle se tourna vers le commis. « Oudry n'est point là, » dit-elle. « Tu es sûr qu'il n'est pas sorti ?»« Oh, madame, j'en suis tout à fait sûr, il n'est pas sorti et personne n'est entré. »« J'ai pas quitté la cour, » répliqua le commis en sautant à la tête du veau qui continuait à cabrioler avec grâce. « Bien sûr, il est là. Il se cache pour vous faire peur. Il ferait mieux de cacher le veau. » « Oudry, Oudry, réponds-moi, Oudry, tu te caches pour me faire peur. » Le petit commis, d'un tour de longe, avait attaché le veau. Tous ces détails étaient dans l'article. La mode à cette époque était déjà aux faits divers dramatisés, et celui-ci est dramatisé à souhait. Au fond, on eût pu le raconter en 5 lignes, mais c'est la nouvelle presse. Il fut aux côtés de Madame Oudry et poussa un cri. Puis il ajouta « Oh, celle-là, elle est raide !» Quand nous sommes entrés, avec un veau, un seul veau. « Madame, un veau que j'ai attaché sur l'étou et qui gambade maintenant dans la cour, il y a un autre veau au tinet. » Le tinet, interrompis-je, est une barre de chêne à laquelle on suspend le veau et que l'on hisse à l'aide du treuil. « Oui, oui, il y a un autre veau au tinet. »« Je le vois bien, » fit Madame Oudry, « un tout petit veau. »« Quel petit veau ! » !»« Mais t'es fou, commis ! Il devait y avoir deux veaux. »« Jamais, jamais, madame, jamais !»« Eh bien, tu vois pourtant bien le veau du tinet. » « Moi, interrompis-je, moi, je redoute, oh, combien je redoute un grand malheur !» Le petit commis et Madame Oudry s'approchèrent du tinet qui était dans l'ombre et ne dirent rien tant qu'ils étaient étonnés de voir la sorte de viande blanche qui était suspendue à ce tinet. Il n'avait jamais vu une pareille viande blanche, et si cette viande était tout à fait arrangée comme un veau, il se rendit enfin compte que ce n'était pas de la viande de veau. « Moi, interrompis-je encore, moi, je redoute un grand malheur. »« Quel drôle de petit veau !» ne cessait de répéter le petit commis. « C'est pas un petit veau ?» fit Madame Oudry. « Non, non !» On lui a tout de même fleuri la peau du ventre avec la lancette. « Voyez, madame, les jolis dessins, il y a des cœurs, des flèches, des fleurs. » « Ah, les belles fleurs !»« Il faut avoir, interrompis-je, un certain tour de main pour fleurir le veau avec la lancette. On peut dessiner de très belles fleurs avec un crayon sur un morceau de papier et être tout à fait haut, tout à fait incapable d'user de la lancette pour dessiner sur un morceau de ventre. Mettez une lancette dans la main de M. Bougreau et peut-être trouvera-t-il qu'il n'a jamais éprouvé tant de difficultés à dessiner des veaux. » Le petit commis souleva la fessure, c'est-à-dire les poumons auxquels pendait le cœur. « C'est une belle fessure, dit-il, elle n'est pas trèfle. »« Elle n'est pas trèfle, interrompis-je, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade. »« Non, non, c'était de beaux poumons. »« Oui, c'était coche. »« Coche, expliquai-je, c'est le contraire de trèfle, une viande est coche quand elle est bonne. » Le petit commis ajouta, « Le cœur est bon. »« Oui, oh, il avait un bon cœur. » gémit Madame Oudry, qui fut tout à coup épouvantée de ce qu'elle venait de dire. « En effet, interrompis-je, pourquoi cette imprudente femme, dit-elle, il avait un bon cœur ? Il ne l'avait donc plus, son cœur ? Oh, les femmes sont tout à fait imprudentes. » Là-dessus, le petit commis, qui s'était pris, sans savoir au juste pourquoi, à pleurer comme un veau, trempa ses mains dans le seau d'eau froide qui est placé à côté de la chaudière. Les ayant ainsi refroidis, il les plongea dans la chaudière, cherchant la tête du veau, ou plutôt la tête de l'animal à la viande si blanche, qui pendait au tinet. Et il tira une tête, en effet. Mais quand elle vit cette tête, Madame Oudry s'évanouit, car elle avait reconnu la tête de son mari. « Je l'avais bien dit, interrompis-je, et mes pressentiments ne me trompent point. Je redoutais un grand malheur, et le voilà. Je répétais tous les jours à M. Oudry de se méfier. Qu'on ne tue pas tant de veaux sans que ça se cache chez les veaux. Mais il riait, il se moquait de moi. Félicitations, M. Oudry, félicitations. Le calcul des probabilités est là, n'est-ce pas ? Rien n'y faisait, ni le regard du veau, ni le calcul des probabilités. » Je lui disais, « Mon cher monsieur Oudry, si un boucher peut tuer plus de 1000 veaux à Paris, quand c'est défendu, il se trouvera bien un veau pour tuer un boucher. Et le boucher n'aura rien à dire, car ce sera le droit du veau. » Et voilà, le veau a découpé le boucher. Enfin, ce n'est la faute de personne. Mais continuons cette intéressante lecture. Si Madame Oudry avait tout de suite reconnu la tête de son mari, le petit commis, lui, dut l'examiner de plus près pour être sûr que c'était là la tête de son patron. C'était une tête bien coupée, bien raffinée, bien échaudée, bien épilée. La moustache et les cheveux avaient été rasés comme il faut, les oreilles bien nettoyées, et pour quelqu'un qui n'eût pas été prévenu, cette tête de boucher eût pu au besoin passer pour une tête de veau. À son tour, le petit commis s'évanouit et laissa rouler la tête de M. Oudry. « Ce pauvre M. Oudry, interrompis-je, était un brave homme, mais il aimait trop à couper les têtes des veaux avec le Seigneur. Tout ça devait mal finir. C'est bien triste. » Quelques minutes plus tard, le drame était découvert. On juge de l'émotion dans le quartier. « Il y a de quoi, interrompis-je, il y a de quoi. Et maintenant, il faut juger le veau. Oh, il aura du succès en cour d'assises. C'est un étrange, fantastique, impitoyable et courageux veau. » Le journaliste, dit Théophraste, n'était point de cet avis que le veau eût découpé le boucher, et il mettait encore en avant le nom de Cartouche. Oh, ce pauvre Cartouche! Je haussai une fois de plus les épaules, puis ayant levé les yeux de dessus mon journal, je cherchai en vain dans les deux coins de la salle à manger où ils s'étaient réfugiés pour faire l'enfant, ma femme et Monsieur le Camus. Ils avaient disparu. Je les appelai avec force et ils ne me répondirent point. Je fouillai l'appartement et ne les trouvai point. Je voulus ouvrir la porte du palier et elle ne s'ouvrit point. Ils m'avaient enfermé, ce qui ne me gêna point. Quand je suis enfermé, je sors par les cheminées, si elles sont assez larges et si elles sont étroites, je disparais par les fenêtres. Mais la cheminée de mon salon est une cheminée monumentale, comme il ne s'en trouve point deux dans la rue Gérardot, et je l'escaladais avec la même facilité que j'avais descendu la cheminée où commençait à chauffer la chaudière de M. Houdry le matin même, quand le veau découpa si promptement et proprement cet excellent malheureux homme. J'arrivai bientôt sur les toits, par un temps froid et pluvieux, qui m'incita à une grande tristesse. Chapitre 26. Étrange attitude d'un train qui fait du 110 à l'heure. Cette dernière promenade sur les toits de la rue Gérando, par un temps froid et pluvieux, devait avoir sur Théophraste une influence physique et morale que nous essaierons d'analyser en quelques lignes. D'abord, je parlerai de l'influence physique qui est, comme on le verra par la suite, de la plus grande importance. Théophraste, mélancolique, s'étant assis, les jambes pendantes au rebord d'une gouttière, et s'étant attardé à quelques rêveries, s'enruma. Au point de vue moral, je ne saurais trop insister sur cette considération que Théophraste, qui, pendant toute la lecture de l'article du journal relatant les crimes dont le nouveau Cartouche épouvantait Paris, avait montré une large désinvolture inconsciente, Théophraste, dis-je, qui semblait n'être sorti par la cheminée que pour rentrer en lui-même, commença enfin à se rendre compte de sa terrible responsabilité et, en ce qui concerne spécialement le découpage du boucher Houdry, cessa d'accuser le veau. Il se rappela maintes sorties nocturnes par la route qu'il venait de suivre, et quelques crimes sanglants, apparus à sa mémoire enfin dégourdie, lui firent monter aux yeux les larmes trop tardives d'un inutile remords. Ainsi, malgré toutes les souffrances passées, en dépit des invocations de M. de La Nox et de la torture qu'on lui avait imposée, Cartouche n'était pas mort. Et ce soir-là, comme tant d'autres criminels soirs, il promenait son âme damnée sur les toits de Paris. Il pleura. Il maudit cette force mystérieuse et irrésistible qui, du fond des siècles, lui ordonnait de tuer. Il maudit le geste qui tue. Il songea à sa femme, à Adolphe. Il regretta amèrement les heures de bonheur passées entre ces deux êtres si chers. Il les excusa de s'être enfuis. Il leur pardonna leur terreur. Il résolut de ne plus désormais troubler de ses rouges divagations la paix de leurs jours. Disparaissons, se dit-il. Cachons notre honte et notre tare originelle au fond des déserts. Ils m'oublieront. Je m'oublierai moi-même. Profitons de ces minutes logiques où mon cerveau, dégagé momentanément de l'autre fois, discute, pèse, déduit, conclut et vit dans le maintenant. Ce n'est plus Cartouche qui parle. C'est aujourd'hui Théophraste qui veut. Théophraste qui crie à Cartouche « Fuyons, fuyons !» Puisque j'aime Marceline, fuyons, puisque j'aime Adolphe. Un jour ils seront heureux sans toi, il n'y a plus de bonheur avec toi. Adieu, adieu Marceline, femme adorée, épouse fidèle. Adieu Adolphe, ami précieux et consolateur. Adieu, Théophraste vous dit adieu. Il pleura, puis tout haut il dit Viens, Cartouche. » Et il s'enfonça dans la nuit, allant de gouttière en gouttière, grimpant de toit en toit, glissant le long des murs avec une sûreté, une aisance, un équilibre de somnambule. Et maintenant, quel est cet homme qui, le front bas et le dos courbé, les mains dans les poches, erre comme un malheureux dans le vent qui passe, sous la pluie qui tombe le long, tout de long de la voie? Il suit la route qui longe la voie du chemin de fer. C'est une route droite, bordée de petits arbres malingres, plumeaux naturels et chétifs, tristes ornements de la route départementale, le long de la voie du chemin de fer. D'où vient cet homme qui a les mains dans les poches, ou plutôt cette ombre d'homme, cette triste ombre d'homme? La plaine s'étend à droite et à gauche, sans une ondulation, sans le renflement d'une colline, sans le creux d'une rivière. Il est de toute utilité, pour ce qui va suivre, de se rappeler les détails du paysage. Ces détails, du reste, sont visibles, car ceci n'est point une scène de nuit, mais bien une scène de plein jour. Sur la voie, toute droite, à côté de la route, passent de temps à autre des trains omnibus, des trains rapides, des trains de marchandises. Pendant qu'ils passent, la voie ronfle, puis elle se tait, et l'on entend alors, dans le vent, le ting-ting-ting-ting de la sonnette des disques de la petite gare prochaine. Mais quelle petite gare ! Il y en a une en avant et il y en a une en arrière. Les deux petites gares sont espacées de 5 kilomètres et encore, il faudrait mesurer. Entre les deux petites gares, il y a la voie droite, la double voie, bien entendu, pour les trains qui montent et pour les trains qui descendent. Ces deux gares sont rejointes, donc, par un quadruple trait de rail posé sur la plaine. Entre les deux gares, il n'y a aucun travail d'art, aucun viaduc, aucun tunnel, aucun pont, pas même un passage à niveau. Mon Dieu, j'insiste. Oui, c'est à cause de l'étrange attitude d'un train qui fait du 110 à l'heure. Si je n'avais pas insisté sur tous les détails de l'étrange attitude d'un petit chat violet, on eût pu me dire que je me plaisais à créer du fantastique. Or, je hais le fantastique. Et si je me suis résolu à publier les papiers, mémoires et documents qui se trouvaient dans le coffret en bois des îles, c'est bien après avoir acquis cette certitude que tout le fantastique apparent de l'aventure de Théophraste s'expliquait naturellement avec un peu d'intelligence et de flair. J'ai dit, d'où venait la triste ombre d'homme ? Je ne me sentirais point sur des effets littéraires, surtout maintenant que nous connaissons la route et la voie tout droite posée sur la plaine du chemin de fer. Un ballast d'une régularité incomparable. La triste ombre d'homme, c'est Théophraste. Il a résolu de fuir n'importe où, loin de sa femme, le pauvre cher malheureux héroïque homme. Après une nuit passée de gouttière en gouttière, ne sachant où diriger sa course, ne le voulant du reste pas, il est entré dans une gare. Quelle gare, le saura-t-on jamais ? Et sans billet, monté dans un train, et sans billet, quelque part, est descendu du train, et est sorti d'une autre gare. Il arrive, certes, combien de fois que le contrôle des gares est mal fait à cause du grand nombre des voyageurs ou pour toute autre cause. Le voilà donc sur la route, à l'entrée d'un village, sur la route qui suit la voie du chemin de fer. Et qu'aperçoit-il sur le seuil d'une petite maison à l'entrée du village ? Madame Petitot elle-même. C'était la première fois que Madame Petitot revoyait M. Longuet depuis que celui-ci avait dû couper les oreilles de M. Petitot. Madame Petitot fut prise d'une grande colère. Elle fit un grand discours. On ne saurait arrêter une femme en colère. Si M. Petitot avait entendu Regina, il l'aurait giflé à cause de son imprudence ridicule. Après toutes sortes d'imprécations résultant de la barbarie de Théophraste, Mme Petitot apprit à Théophraste que M. Petitot avait trouvé les trésors des Chopinettes, qu'il les avait mis en lieu sûr et que ces trésors étaient les plus riches trésors de la terre, des trésors qui valaient plus que deux oreilles, fussent-elles aussi vastes que les oreilles de M. Petitot. Eh bien, ils étaient quittes. Théophraste, au cours de ce discours, trouva difficilement le moyen de placer quelques paroles, mais il n'en fut pas autrement marri. Il remercia même la colère de Mme Petitot de lui avoir fourni des renseignements aussi précieux, et il laissa tomber ces mots. « Bon, je retrouverai mes trésors, car je retrouverai M. Petitot. » Madame Petitot éclata d'un rire satanique. « Monsieur Petitot !» s'écria-t-elle. « Il est dans le train !»«
Dans quel train ?»«
Ben dans le train qui va vous passer sous le nez. »
« Quel est le train qui va me passer sous le nez ?»«
Ben, celui qui emporte mon mari par-delà la frontière. »«
Montez dedans, cher monsieur, montez dedans. »
« Si vous voulez parler à monsieur Petitot. » »«
Mais dépêchez-vous, car il va passer dans une heure, et c'est pas à la station prochaine que l'on distribue les billets. »
Et elle eut un rire plus satanique encore, si satanique que Théophraste regretta les moments où il était sourd. Il la salua et s'éloigna rapidement sur la route, au bas de la voie du chemin de fer. Quand il fut seul entre les petits arbres et les poteaux du télégraphe, il dit « Allons, allons, il faut que j'aille demander des nouvelles de mes trésors à M. Petitot lui-même. Mais comment ?»«
Il est dans le train qui va me passer sous le nez. »
Ici, il est nécessaire de publier un plan. Mais vraiment, je crois absolument inutile de publier les noms des stations A et B. Ce qui va arriver est mathématique, si j'ose dire, et les noms de ces stations ne sauraient rien empêcher. Du reste, il vaut mieux réduire les données du problème de cette épouvantable catastrophe à deux points A et B et à une ligne AB, ce sera plus clair. Allons à la station A. Le sémaphoriste de la station A entend le ting, qui annonce que le rapide attendu vient de passer la station B et de s'engager dans la section du bloc système qui commence à la station A et finit à la station B. Mais le train va de B à A, il est sur la ligne BA, c'est clair. Le sémaphore en A annonce le train avec son petit bras jaune avec son ting, et le sémaphoriste trompe pour avertir le chef de service. Le sémaphoriste de la station A attend le train, attend le train, attend le train. Il devrait être là, le train. C'est un train qui fait du 90 à l'heure, et comme il est en retard, il fait même du 110, et du 115, et du 120. Il y a peut-être 4 ou 5 kilomètres maximum entre la station A et la station B. Le sémaphoriste, mort d'effroi de ne pas voir apparaître le train, crie au chef de service qui vient vers lui que le train devrait être passé. Le chef de service, qui est le chef de gare, se précipite à son télégraphe et télégraphie à la station B « Train signalé, pas arrivé ». La station B répond, « Farceur !» La station A, « C'est sérieux, que faire ?» Horrible anxiété. La station B, « Va raconter ça à Dash !» La station A, « Mais devons redouter catastrophe ! Courons sur les lieux, venez au-devant de nous !» La station B, « Mais que peut-il être arrivé ? Ben, courons aussi !» Alors, les chefs de gare, les facteurs enregistrants et hommes d'équipe des stations A et B
Cours, cours, les hommes de la station A allant sur la station B, et ceux de la station B allant sur la station A. Ils courent en plein jour au milieu de la plaine unie, de la plaine sans rivière, sans coteaux, sans vallon. Sans ça, ce ne serait plus une plaine. Ils courent le long de la ligne du chemin de fer et se rencontrent entre A et B, mais ils ne rencontrent pas le train. Le chef de gare de la station A, je dis bien de la station A, qui avait une maladie de cœur, en tombe raide mort. Chapitre 27. Un homme sans oreille avait la tête à la portière. En somme, toute cette géométrie résume cet événement bien simple. Un train rapide doit brûler deux petites stations distantes de 4 à 5 km. Il est annoncé à la seconde quand il passe à la première, et cependant on l'attend vainement à la seconde. On court de part et d'autre devant une catastrophe. Or, on ne retrouve plus le train, un train rapide dans lequel il y a peut-être une centaine de voyageurs. Que le chef de gare de la station A soit mort sur le coup que lui porta cette disparition inouïe, stupéfiante, ahurissante, ridicule, infernale et cependant combien simple du train, nous le verrons par la suite. Il ne faut point s'en étonner, outre mesure. Les esprits avaient été fort secoués par l'événement. Le chef de gare de la station B ne valait guère mieux que son collègue. Enfin, toutes les personnes présentes poussaient des cris incohérents. Ils appelaient le train, comme si le train pouvait leur répondre. Ils ne l'entendaient pas, et sur la plaine unie, ils ne le voyaient pas. Le facteur enregistrant de la station A était penché sur le corps de son chef, et prononça ces mots « Je crois bien qu'il est mort ». Tous alors se groupèrent autour du mort, et sur deux branches d'arbres arrachées au bord de la route, couchèrent son cadavre. Ils revinrent ainsi, accompagnant le cadavre porté par deux d'entre eux, vers la station A. N'oublions pas que le train était passé à la station B, et que nul ne l'avait vu à la station A. Or, il n'était pas arrivé à la station A que sur la voie qu'ils venaient cependant de parcourir, ils aperçurent un wagon, ou plutôt deux wagons, c'est-à-dire un wagon et le fourgon de queue. Ces gens poussèrent encore des cris de fou. D'où venait cette queue de train et qu'était devenu le commencement de ce train, c'est-à-dire la locomotive, le tender et trois wagons à couloir? Consultez le plan. C marque le point où, sur la ligne, se sont rencontrées les deux équipes A et B quand elles allaient à la rencontre du train, et c'est encore le point où est mort le chef de gare de la station A. Les deux groupes, réunis en un seul, rapportèrent donc le corps vers A quand, sur le point D, point sur lequel ils venaient quelques minutes auparavant de passer, et où ils n'avaient rien vu, ils trouvent un wagon et le fourgon de queue. Je dis que ces gens poussaient des clameurs de fous quand ils aperçurent une tête bizarre qui remuait à la portière. Cette tête n'avait pas d'oreille, et l'homme sans oreille avait la tête à la portière. Ils le hélèrent. Du plus loin qu'ils le virent, ils lui demandèrent ce qui était arrivé. Mais l'homme ne répondit pas. Chose bizarre, la tête remuait comme si elle était poussée de droite et de gauche par le vent qui soufflait alors avec une force appréciable. C'était une tête aux cheveux crépus. Elle baissait le nez. La cravate autour du faux col, d'une blancheur éblouissante, était dénouée et flottait au vent. En approchant davantage, les hommes aperçurent de la peinture rouge sur le panneau de la portière. Enfin, quand ils furent tout prêts, ils n'allaient qu'assez lentement à cause du cadavre du chef de gare, ils eurent la vision de l'effroyable réalité. Cette peinture était du sang, et si l'homme avait la tête à la portière, c'est qu'il avait la tête prise dans la portière. Elle ne tenait plus que par un lambeau. Cet homme, ce malheureux homme, avait dû ouvrir en cours de route la portière, pencher la tête au dehors, et la portière s'était brutalement refermée sur son cou, le décapitant, ou presque. Les deux équipes, voyant cela, hurlèrent encore, déposèrent le cadavre du chef de gare, firent le tour du fourgon dans lequel il n'y avait personne, et ouvrant une autre portière du wagon, constatèrent que ce wagon était vide, sauf l'homme qui avait la tête prise dans la portière et dont le corps à l'intérieur du wagon, c'est-à-dire dans le couloir, était tout nu. La nouvelle de tant de fantastiques horreurs se répandit immédiatement dans les villages à la ronde, et une foule énorme toute la journée encombra les quais de la petite station A. Des chefs vinrent de Paris. Non seulement on ne put s'expliquer ce jour-là, ni les jours suivants, la mort de l'homme tout nu qui avait la tête à la portière, mais encore on ne retrouva ni le train, ni les voyageurs. On ne parla que de cette affaire étrange aux obsèques du chef de la station A, qui furent tout à fait solennelles, et même dans toute l'Europe, aussi en Amérique. Chapitre 28. Où la catastrophe qui semblait devoir s'expliquer devient plus inexplicable encore. Je n'ai fait que publier un plan sommaire de la ligne pour ne pas compliquer les choses. Ce plan n'est pas tout à fait complet, car si cette ligne était unique, reliant dans une plaine les deux stations A et B, il se trouvait adjacent à cette ligne une courte ligne de garage HI qui conduisait à une carrière récemment abandonnée de sable pour verrerie. La verrerie ayant fait faillite, on n'exploitait plus la carrière et la ligne était en quelque sorte abandonnée. Ici, le plan complet. Je sens bien que, dans l'esprit du lecteur, cette voie de garage HI conduisant à une carrière de sable va jouer un rôle explicatif, trop facilement explicatif. Mais vraiment, si l'affaire était aussi simple que la voie du garage HI semble devoir le faire croire, pensez-vous que l'auteur de ces lignes aurait attendu pour parler de cette voie de garage et de cette carrière de sable? Il aurait dit tout de suite, par suite de circonstances qui restent à déterminer, le rapide, au lieu de continuer à suivre la voie BA, s'est sans doute engagé sur la ligne HI de garage et s'est jeté dans le monticule de sable qui se trouvait en I. Le train, marchant à plus de 110 km à l'heure, a défoncé le monticule de sable I qu'il a recouvert et telle est la cause stupide, mais réelle, ou apparemment réelle, de la disparition du rapide. Outre que ceci n'expliquerait pas la présence en D du dernier fourgon et du wagon où M. Petitot avait la tête à la portière, cette démonstration n'aurait pas manqué de frapper l'intelligence si déliée de messieurs les ingénieurs de la compagnie. Or, il y avait bien un aiguillage en H, mais cet aiguillage en H était, selon les règles, cadenassé et la clé avait été enlevée du cadenas. Mais moi, je vais plus loin que les ingénieurs de la compagnie. Je n'attache point d'importance à ce que le cadenas soit fermé. Je me dis, le cadenas avait peut-être sa clé avant que l'on y avait oublié en hache qui était frais. Et Théophraste Longuet, qui avait intérêt à arrêter le train pour rejoindre M. Petitot, a profité de la présence de cette clé pour faire jouer l'aiguillage, c'est-à-dire pour tourner la lentille de l'aiguille du coup de l'autre côté, ce qui explique que le train n'a pas été vu par le sémaphoriste placé en A, puisque le train, au lieu de continuer sur A, s'est engagé sur HI vers la carrière. Je me dis, ou plutôt, je me suis dit cela, et si cela avait pu s'expliquer quelque chose, je ne suis pas un homme à avoir fait languir le lecteur, et je lui aurais démontré l'affaire sans embâge, et je n'aurais pas hésité à publier comme premier plan la ligne AB et la ligne HI. Si je ne l'ai pas fait, c'est que cette petite ligne de garage HI n'explique rien, Moi aussi, j'ai cru qu'elle allait nous faire comprendre la disparition du train. Mais elle complique la catastrophe au lieu de l'expliquer. Car voici l'histoire vraie, qui continue à ne rien expliquer du tout. Errant le long de la route qui suivait la route du chemin de fer, Théophraste avait remarqué la petite ligne de garage et il avait vu que la clé avait été laissée dans le cadenas de l'aiguille. Ceci, qui n'avait aucune importance avant son entrevue avec Madame Petitot, en prit une énorme quand il résolut de rejoindre coûte que coûte M. Petitot, qui était dans le train et qui allait lui passer sous le nez. M. Lourguet se dit « Je ne puis monter normalement dans le rapide qui brûle les deux gares à Hébé. Mais il y a une petite voie de garage, H.I. La clé est sur le cadenas de l'aiguille. Je n'ai qu'à retourner la lentille et le rapide s'engagera sur la ligne H.I. Le mécanicien, puisqu'on est en plein jour, s'en apercevra, arrêtera le train et moi je profiterai de cet arrêt pour sauter dans le train. N'est-ce pas, c'est extrêmement simple. » Théophraste fit comme il le pensait. Il retourna la lentille et montant le long de la voie H.I., il attendit le rapide. Monsieur Théophraste Lourguet, caché derrière un arbre, pour n'être aperçu ni du chauffeur ni du mécanicien, attendit le rapide au point K, c'est-à-dire avant la carrière H.I. Il attendit le rapide venant de H, les yeux sur la voie. Si, comme tous les lecteurs l'ont pensé, depuis que je l'ai parlé de la carrière, le train s'était précipité venant de H dans la carrière I, M. Théophraste Longuet, qui était en K entre H et I, eût vu ce train. Or, M. Lourguet attendit le rapide. Il l'attendit comme le sémaphoriste placé en A l'avait attendu, et pas plus que le sémaphoriste, pas plus que tous les agents de la gare A, il ne vit le rapide. Le rapide avait disparu pour M. Lourguet comme pour tout le monde. Si bien que là d'attendre, M. Lourguet descendit pour voir ce qui se passait jusqu'en H. Et là, il vit l'équipe A qui s'en allait verser à la recherche du train. Mélancolique et se demandant, sans pouvoir se répondre, ce que le rapide était devenu, il remonta la ligne H.I. et arrivé en K qu'il venait de quitter, il trouva le fourgon vide et le wagon que, quelques minutes plus tard, les deux équipes devaient retrouver en D. Il jura encore par les tripes de Madame de Falaris et se prit le front à ses deux mains, se demandant comment ce wagon et ce fourgon étaient là puisque le rapide n'était pas venu. Il n'était pas venu puisque lui, Théophraste, n'avait pas quitté la voie. Soudain, il vit la tête d'un homme à la portière du wagon. Le vent faisait remuer cette tête comme une loque, et comme cette tête n'avait pas d'oreille, il reconnut M. Petitot. Il monta dans le wagon et déshabilla, en lui laissant la tête prise dans la portière, M. Petitot. Il le mit tout nu. Il se déshabilla lui-même et revêtit les habits de M. Petitot. Il fit un sac avec les siens. Évidemment, Théophraste, qui se savait traqué par la police et en qui renaissait l'astuce de Cartouche, se déguisait. Quand M. Petitot fut tout nu et que lui, Théophraste, fut dans les habits de M. Petitot, il descendit de wagon, fouilla dans la poche de M. Petitot, en retira le portefeuille, et s'étant assis sur le talus, se plongea dans les paperasses de M. Petitot, y cherchant les traces de ses trésors. Mais M. Petitot avait emporté le secret des trésors des Chopinettes dans la tombe, et jamais plus on ne devait réentendre parler ni du four, ni du coq, ni des Chopinettes, ni des trésors, d'autant mieux que Madame Petitot, qui quelques minutes plus tard devait apprendre l'incroyable trépas de son mari, devint folle et le resta jusqu'à la fin de ses jours. Nous ne nous occuperons plus que du malheur de Théophraste, qui dépasse tous les malheurs, et qui devient si incroyable qu'il nous faudra tout le secours de la science pour y ajouter une entière foi. L'auteur de ces lignes ose dire au lecteur qu'il ne le croit pas d'esprit si bas ni d'imagination si pauvre qu'il ne puisse s'intéresser qu'à une aventure de trésor. La véritable aventure, c'est l'âme de Théophraste. Or, ce qui est arrivé jusqu'à ce jour à l'âme de Théophraste et à son corps n'est rien, absolument rien, mais rien du tout, à côté de ce que le ciel lui a réservé par la suite et que j'ai noté fort scrupuleusement dans la dernière partie de cette honnête compilation. Donc, Théophraste poussa un soupir en ne retrouvant rien d'intéressant dans les papiers de M. Petitot, mais quand il releva le nez, le fourgon et le wagon de M. Petitot avaient disparu. Chapitre 29. Un ouvrier qui chante international accomplit cette œuvre symbolique d'enterrer un voleur et un commissaire de police. M. Lourguet, bien que décidé à ne plus s'étonner de rien, s'étonna tout de même de la disparition du wagon à l'une des portières duquel on pouvait voir la tête sans oreille de M. Petitot. Mélancoliquement, il descendit au long de la petite voie de garage, se demandant s'il lui fallait s'étonner davantage de la disparition du wagon que de son apparition. Enfin, la suppression du rapide l'avait jeté dans une prostration que nos lecteurs comprendront sans doute. Il me semble que je n'ai point le droit, moi qui ai eu le secret du coffret en bois des îles, de donner l'explication de petites suppressions et de tout ce qui s'ensuivit avant l'heure. Monsieur Théophraste Longuet apprendra comment le rapide fut supprimé, c'est-à-dire comment il disparut avec ses voyageurs. Et toute cette fantasmagorie du rapide et des wagons tiendra dans une courte phrase naturelle prononcée par monsieur le commissaire de police Mifroy, lequel, depuis le lycée, n'a cessé, entre autres sciences, d'étudier assidûment cette partie si importante de la philosophie qui s'appelle logique. Il est bon à ce propos de faire cette remarque ici que nous avons dès maintenant toutes les données de cet étrange problème et que nous n'avons plus rien à ajouter au dernier plan. Théophraste, donc, prostré, descend la voie de garage, arrive à la bifurcation, considère la lentille de l'aiguille, retourne cette lentille qu'il avait détournée, referme le cadenas et en emporte définitivement la clé qui y avait été quelques jours auparavant s'y imprudemment laissé. Il accomplit ce geste parce qu'il le trouve juste, et il remet l'aiguille en place parce qu'il sent bien que sa raison ne résisterait pas à une nouvelle disparition de train. Toujours mélancolique, il arrive à la station A, désertée. Toute l'équipe est en effet à la recherche du train, et seul le sémaphoriste veille. Théophraste interroge le sémaphoriste, qui ne peut que lui dire, en lui montant le petit bras jaune de son sémaphore, « Mais le rapide est annoncé, il ne vient pas. » Théophraste insiste. « Ben, on vous a bien annoncé le rapide à la station précédente. »« Oui, monsieur, et le chef de gare et tous les hommes d'équipe de la station précédente ont vu passer le rapide et nous l'ont télégraphié. » « Enfin, voyez, monsieur, mon petit bras jaune. Voyez, mon petit bras jaune, il n'y a pas de catastrophe possible entre la précédente station et celle-ci. Il n'y a, monsieur, aucun point, aucun viaduc au point de travaux d'art. Enfin, que vous dirais-je? Je suis monté tout à l'heure à l'échelle que vous voyez appliquée contre cette grosse cuve. De là, on aperçoit toute la ligne jusqu'à l'autre station. » J'ai vu nos gens qui gesticulaient sur la ligne, mais j'ai pas vu de train. Étrange, étrange. Oh, tout à fait étrange. Croyez-en, mon petit bras jaune. Inexplicable. C'est-à-dire, oui, qu'il n'y a rien de plus inexplicable. Si, si, si. Il y a quelque chose de plus inexplicable qu'un rapide qui disparaît de sa locomotive sans qu'on puisse savoir ce qu'il est devenu.
Quoi donc ?
Mais un wagon sans locomotive qui apparaît sans qu'on puisse dire d'où il vient.
Oh ça !
Et qui disparaît comme il est apparu. Vous n'avez pas vu passer par là un wagon avec un homme à la portière ?
Ah, monsieur, dit le sémaphoriste en se fâchant, vous vous moquez de moi, vous exagérez. Parce que vous ne croyez pas à l'histoire du rapide annoncé qu'il ne vient pas ? Mais regardez, monsieur, regardez mon petit bras jaune.
Monsieur Longuet réplique au sémaphoriste. Ben, si vous n'avez pas vu le rapide, moi non plus.
Ce « moi non plus » qui ne dit rien à l'esprit du sémaphoriste répond aux préoccupations intimes de M. Longuet qui s'éloigne dans les habits de M. Petitot. M. Longuet a son idée. Son malheur est si extrême et si inguérissable qu'il a résolu de mourir pour les autres. Alors avec un peu d'astuce, la chose est possible. Puisqu'il a revêtu les habits de M. Petitot, rien ne l'empêche de laisser les siens au bord de la première rivière qu'il rencontrera. Cet acte si simple constituera un acte de suicide en règle. Voilà Adolphe et Marceline bien tranquilles. Pensée émue de M. Longuet à l'adresse de Marceline et d'Adolphe. Et au bord de quelle rivière M. Longuet déposa-t-il ses habits ? Comment M. Longuet rentra-t-il à Paris ? Bon, ceci n'a point d'importance. Il n'y a qu'une chose qui soit vraiment importante, c'est l'explication de la disparition du train. Cette explication fut donnée à Théophraste par M. Biffroy dans les circonstances que voici équivalent d'être rapportés en détail. Au crépuscule, un ouvrier chantait sur une place de Paris, du côté de l'ancien quartier d'Enfer, l'hymne qui, quelques mois plus tard, devait devenir si populaire, j'ai nommé l'International. Cet ouvrier terrassier travaillait avec quelques compagnons à la réfection de la voie. Celle-ci, en effet, avait subi certains dommages à la suite de la construction d'un nouvel égout. La voie, en certains endroits, avait fléchi. Même une maison de la place, une lourde récente maison à 7 étages, s'était inclinée. Les ingénieurs de la ville voulurent bien s'intéresser à ce menaçant état de choses. On n'ignorait pas que, surtout dans ce quartier, les catacombes avançaient leurs tunnels d'innombrables, leur couloir millénaire et que certaines bâtisses, qui dressent avec audace leurs épaisses murailles immobiles, ont une vie architecturale aussi précaire que celle d'un château de cartes, car elles reposent sur les voûtes branlantes des antiques carrières gallo-romaines. Donc on se résolut à des travaux restreints qui devaient donner une sécurité immédiate. Le jour qui nous occupe voyait la fin de ses travaux. L'ouvrier, qui chantait l'International, finissait avec ses camarades de boucher un trou dans la voûte souterraine que l'on avait préalablement consolidé, par en dessous de très puissants piliers, voûte sur laquelle allait reposer quelques mètres plus haut, après Remblai, le pavé de la place. Et en somme, cet ouvrier qui chantait l'International finissait de boucher ce trou à l'heure du crépuscule. À la même heure, quelques pas plus loin, sur le trottoir de la place, à la devanture d'un magasin de lampes électriques, M. le commissaire de police Mifroy marchandait pour ses hommes une demi-douzaine de ses lampes. Ce sont des lampes portatives, grandes comme un étui à cigarette. On appuie sur un bouton et on a dans sa poche pour 48 heures d'électricité. Monsieur le commissaire de police Mifroy avait fait son prix. Il avait même payé.
Il emportait le petit paquet de silums électriques, petit paquet qu'il commençait de balancer avec grâce au bout d'une ficelle rouge, quand il vit, à la devanture du magasin qu'il se disposait à quitter, un homme jeune encore, mais aux cheveux tout blancs, qui, lui, faisait disparaître dans ses poches, sans les avoir payées, quelques spécimens de ces lampes électriques, lesquelles devaient présenter des avantages aussi appréciables pour un voleur que pour un commissaire de police. Monsieur Bifroy, toujours courageux, bondit vers l'homme et cria « Ces cartouches !» Il l'avait reconnu car, depuis la revanche du veau, tous les commissaires de police avaient le portrait du nouveau cartouche dans leur poche. Nous devons ajouter, hélas, que Madame Longuet elle-même et Monsieur Le Camus, à la suite de la lecture relative au veau, n'avaient enfermé Monsieur Longuet que dans le dessein d'aller faire une communication urgente, quoique tardive, au plus proche commissariat, sur l'état mental bicentenaire du malheureux marchand de timbres en caoutchouc. Donc, monsieur le commissaire de police Mifroy, qui avait connu notre héros à l'état de Théophraste, puisqu'il avait dîné chez lui et qu'il le reconnaissait à l'état de cartouche, s'écria en bondissant vers lui « C'est cartouche !» Théophraste, depuis quelques nuits, savait ce que lui voulait la police. Quand il vit monsieur Mifroy, et quand il entendit ces mots, « C'est cartouche !» il se dit. « Bon, il est temps que je me trotte !» et il détala. Le commissaire, derrière lui, courut. Revenons à l'ouvrier. Il chantait toujours l'international. Ses camarades venaient de le quitter à cause d'une tournée chez le marchand de vin. Il en était au refrain. C'était la 77e fois que, depuis 2 heures de l'après-midi, l'ouvrier en était au refrain, mais tout le monde sait que lorsqu'on a une chanson dans la tête, l'ouvrier disait « C'est la lutte finale, vous pour nous et demain !» Ayant tourné la tête, il ne vit pas deux ombres qui dégringolaient dans son trou. C'étaient les deux ombres de Théophraste et du commissaire de police Mifroy. Celle-ci poursuivant celle-là, à l'heure du crépuscule, ombres qui, dans leur précipitation imprudente, venaient de choir dans les travaux de réfection de la voie. L'ouvrier retourna la tête et gueula dans un vaste enthousiasme « L'international sera le jour humain !» Et il finit de boucher son trou. Avant de passer à d'autres chapitres, l'auteur de ces lignes tient à s'excuser auprès du lecteur de la rapidité des derniers événements. Certainement, l'incident du train qui disparaît, la figure agitée par le vent de M. Petitot à la portière du wagon fantôme, et plus récemment encore, l'enterrement vraiment symbolique d'un voleur et d'un commissaire de police par un brave ouvrier qui chante international, tout cela a eu gagné à être narré posément avec tous les détails, à tête reposée. Mais il ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu pour une seule raison, qui est que les papiers qu'il a trouvés dans le coffret en bois des îles relatent les événements en question avec une sécheresse mathématique et que cela aurait été, selon lui, faillir à cette aventure que de la dénaturer par des enjolivements littéraires qui ne sauraient être de mise pour des faits aussi graves. Ces événements, tous secs, certes, sont plus difficiles à lire et demandent une grande contention d'esprit, mais, tels quels, ils se trouvent encore de leur beauté. Dans les chapitres qui vont suivre, nous prendrons notre temps pour faire de la littérature. N'avons-nous point la relation toute fleurie de l'aimable commissaire de police Mifroy, dont le titre est si plein de grâce et le sous-titre si plein de mystère? Voici le premier titre. Promenade de monsieur le commissaire de police, mi-froid et de l'âme réincarnée de cartouches. À l'envers de Paris, et voici le sous-titre, 3 semaines chez les Talpas.